Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes.
You are fake news.
Hello. L'instant M se parfume à la transpi.
Et on coupe ?
Non, il faut voir.
Vous êtes en direct, allez-y.
La rubrique Transpi est devenue un incontournable de l'émission quotidien sur TMC. Il y a du football, il y a du handball, mais aussi le concours du meilleur cri de mouette ou l'indispensable compétition d'ouverture d'huîtres. Un hommage au sport, à tous les sports, même les plus saugrenus. Un rendez-vous souvent très drôle qui se décline en long format ce soir. Transpi fait le bilan de l'année, alors nous aussi. Jetons un œil à 2018 sous l'angle médiatico-sportif. Parlons de la visibilité des handballeuses françaises et aussi d'une équipe de France de foot qui s'en est pas trop mal sortie. Pour l'occasion, Transpi a mis 2 étoiles au sommet de son sapin de Noël.
L'instant M. Dorothée Barba sur France Inter.
Bonjour Étienne Carbonnier.
Bonjour Dorothée.
Visage récurrent de Quotidien, l'émission présentée par Yann Barthès sur TMC. Alors vous serez aux commandes de cette émission à 21h, Transpi, l'année des champions. C'est la 3e fois que vous sévissez en prime, si j'ose dire. Sacrée marque de confiance de la part du groupe TF1.
Ouais, exactement, de la part de TF1, puis de la part de mes producteurs, Yann et Laurent Bon, qui ouais, me font confiance et pensent que je peux assurer pendant une heure et demie une émission sympa à regarder, quoi.
Les enjeux de cet horaire sont très importants pour les chaînes. Vous avez tout juste 31 ans. C'est pas évident de confier cette tranche à l'un des chroniqueurs parmi d'autres de l'émission Quotidien.
Ouais, après, on l'a déjà fait, Martin Veil, ouais, exactement, a déjà fait plusieurs émissions. Là, il y a Vincent De Dienne qui va faire une soirée.
Une soirée pyjama très attendue. En costard, j'ai l'impression, pyjama.
Et ouais, exactement, c'est du pyjama de télé, quoi. C'est du pyjama chic.
Donc, ça se fait beaucoup.
Du coup, ouais, ils le font, et c'est d'ailleurs hyper sympa de leur part et assez risqué aussi, je pense, de pousser comme ça des jeunes. J'ai pas l'impression qu'on en voit énormément. Des gens de moins de 35 ans à la tête de prime time, quoi.
Vous êtes un nouveau visage de la télé française, Étienne Carbonnier. Vous avez commencé en coulisses, je crois, à faire des fiches pour Alessandra Sublet, notamment. Oui. Vous avez ensuite intégré Bangoumi, la boîte de production qui fabrique Quotidien. Comment est-ce qu'on passe des coulisses au plateau télé?
Moi, ça s'est fait assez naturellement, puisque je suis arrivé au Petit Journal en 2011, je dirais, ou 2012 peut-être. Au fur et à mesure que l'émission s'allongeait, on rajoutait des chroniques, des petits magnétos. Et puis quand Quotidien est arrivé, on est passé là directement de 40 minutes à 1h30.
Donc il fallait des nouveaux visages.
Exactement. Et donc je pense et assez naturellement en fait, ils m'ont dit tu le fais, ça fait 5 ans que tu fais les trucs, tu les écris. Viens les dire maintenant, comme ça sera encore plus pratique, plus simple.
À quoi va ressembler l'émission de ce soir alors, hein? Transpi Best of 2018, ou alors il y a des séquences inédites?
Non, alors oui,
aussi.
On a aussi de l'inédit, puisque on va, en gros, l'émission va se découper un peu en deux grandes parties, on va dire, dont une qui est bien évidemment peut-être la meilleure nouvelle de 2018, la victoire des Bleus en Coupe du Monde. Comme dans Quotidien, on avait un peu traité la Coupe du Monde, mais l'émission s'était arrêtée, on était à peine aux phases de poule.
Énorme frustration pour
exactement,
vous, j'imagine.
Exactement, donc on a réparé ça, on a récupéré énormément d'images, notamment de la victoire. Après, dans les vestiaires, où là c'est assez cool, il y a des images avec, dans les vestiaires, on dirait le G7, quoi. Il y a Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Vladimir Poutine. Un invité mystère, vous verrez dans l'émission, qui a réussi à s'incruster jusque dans les vestiaires. Et c'est assez lunaire de voir le contraste entre les politiques Vladimir Poutine et les Bleus en slip en train de hurler.
C'est des images qu'on a déjà vues à la télévision, ceci dit. Votre boulot, c'est d'y apporter un autre regard.
Ouais, exactement. Comme la remise de la coupe et la présentation de la coupe à l'Élysée, c'était en direct sur BFM. Et là, on a pu vraiment prendre le temps, pouvoir regarder tous les trucs décryptés comme on aime le faire habituellement.
Vous allez zoomer allègrement comme vous faites souvent.
Ouais, exactement.
L'attitude des Bleus vis-à-vis des médias est intéressante à analyser. Il y a une tendance à se passer des journalistes et à communiquer directement avec le grand public.
Il est petit, il est gentil, il a sauvé Léo Messi. Non, c'est tous, c'est un tricheur, et Ntolo Kanté.
Alors là, on est dans le bus hein, avec les joueurs de l'équipe de France, des vidéos qui sont publiées par les Bleus sur Snapchat et sur Instagram. Vous avez l'impression, Étienne Carbonnier, que le mondial en Russie a marqué un tournant dans les relations entre l'équipe de France et les médias?
Et les médias, ouais. Bah effectivement, l'apparition d'Instagram, de Snapchat, tout ça, ça a transformé la communication. D'ailleurs, je me demande même à quel point... comme je sais que l'équipe de France fait vraiment hyper gaffe à sa communication pour les images, par exemple, nous, je sais que c'est assez compliqué, on passe souvent, on a vraiment que les images qui sont validées par la Fédé, c'est-à-dire ceux qui mettent en ligne, eux, sur leur plateforme officielle. Et donc là, je me demande à quel point ça, en fait, ils peuvent pas contrôler, ça leur échappe totalement. Et en même temps, j'ai l'impression que ça a plutôt servi les Bleus et que ça les a rendus hyper sympathiques.
Quel chemin parcouru depuis 2010?
Ouais, c'est incroyable. Et puis c'est aussi quand même, malgré tout, dû à Didier Deschamps, parce que faut voir c'est lui qui a réussi à recréer un truc, en même temps en prenant avec tous ses choix sur Benzema, tous les trucs qui ont été un peu polémiques, il a quand même malgré tout réussi à redorer l'image de l'équipe de France, et c'est pour ça que c'était à mon avis aussi bien cette année.
Quand on envoie un joueur en conférence de presse face aux journalistes, c'est de préférence celui qui assure le spectacle, hein, celui qui fait des blagues, j'ai nommé Adil Rami.
Allez, enfin, enfants, vous ouvrez passez. Votre cahier, page 8, exercice 4, pas de bruit. Non, vous savez très bien qu'on a un effectif qui tourne ici en conférence de presse. Et aujourd'hui, manque de peau pour toi, c'était moi. Et voilà. On m'a fait passer en premier parce qu'après, c'est Blaise. Et Blaise, c'est pas aussi marrant que moi.
on va voir.
Ça va, je rigole. Kylian, c'est vrai que c'est incroyable. Il nous a fait comme dans FIFA, L1, accélération et double joystick droit. Je peux plus rien faire.
Alors là, il fait référence, bien sûr, au jeu vidéo FIFA. Adil Rami, il est très drôle, mais il dit pas grand-chose, finalement, de la tactique des joueurs, de leur état d'esprit avant et après chaque match. C'est ça la stratégie médiatique de Didier Deschamps, Étienne Carbonnier?
Ça, je sais pas, pour avoir vraiment regardé énormément de conférences de presse, il se dit jamais vraiment... en tout cas, les joueurs ne sont pas hyper loquaces et c'est toujours assez des réponses très succinctes. Adil Rami, c'est super parce que c'est un bon client, parce qu'il fait des blagues et du coup, ça fait des images sympathiques.
Mais il dit rien footballistiquement, comme
non,
on dit.
Non, mais ça, ils sont... Finalement, c'est assez rare qu'ils disent quelque chose de très intéressant footballistiquement parlant.
Ça verrouille beaucoup la communication, en tout cas, chez Didier Deschamps.
J'ai l'impression, mais parce qu'il a été...
C'est dommage ou pas, selon vous?
Force est de constater qu'il a eu raison, en tout cas, puisque tout le monde a une image positive de l'équipe de France, il gagne. Donc après, je pense que lui, il a son expérience, il a été joueur, il a vu comment ça se passait. Il est quand même assez intelligent pour comprendre l'évolution des réseaux sociaux et tout ça, mais en même temps, juste arriver à les cadrer sans interdire, qui serait pas forcément une bonne chose d'ailleurs, puisque je pense qu'il le ferait quand même et ça serait pire.
Peut-être se méfie-t-il des journalistes depuis le traumatisme 98. La presse n'a pas été tendre avec l'équipe de France de football.
Ouais, je crois qu'il... il a une méfiance, il avait notamment une méfiance. Vous savez, c'est grâce à lui. Maintenant, tous les joueurs, quand ils parlent sur le terrain, ils mettent la main devant la bouche tout le temps.
Pas qu'on lise sur les lèvres.
Exactement. Et en fait, ça vient de, je crois que c'est après la finale de l'Euro 2000, avec Roger Lemaire, ils sont en train de discuter. Et ils discutent normalement, et Roger Lemaire essaie de lui dire de continuer sa carrière internationale, puisqu'il voulait arrêter. Et il lui dit, non, je peux pas, j'ai des enfants, machin. Et en fait, à l'époque, je crois que c'était France 2 qui avait, ils avaient engagé des spécialistes.
De
ouais, exactement. Mmh. Et donc, c'est grâce à lui, grâce ou à cause de lui que tous les joueurs maintenant mettent la main devant la bouche quand ils parlent.
Les places à l'équipe de France de handball.
Cette médaille, je trouve que c'est une double récompense pour nous, parce qu'on est un champion d'Europe. Et on arrive à se qualifier pour les Jeux 18 mois en avance. Ça nous ouvre plein de perspectives.
Béatrice Edwige qui a donné de la voix pour fêter sa victoire face à la Russie en finale de l'Euro de handball. Elle en a plus beaucoup pour répondre en interview. Oui. C'est historique, Étienne Carbonnier, cette victoire des handballeuses. Et c'est aussi historique sur le plan médiatique parce que ça a été diffusé sur TF1, la finale. Mm-hmm. Audience, 5,4 millions de personnes devant leur télé, un pic à 8 millions en fin de match. Il faudra des victoires de cette envergure pour que le sport féminin soit enfin médiatisé à sa juste valeur.
Ouais, je pense que ça passe par là pour que les gens s'habituent, qu'on leur apprenne en fait à aimer le sport féminin. Je pense que aussi à mon avis, ça doit être peut-être dû. Enfin, quand on regarde les matchs de handball féminin maintenant, c'est quand même hyper impressionnant. C'est la même chose au niveau du rythme que les matchs des garçons. Donc c'est peut-être ça aussi qui a changé. Peut-être que le niveau général est entre les hommes et les filles, c'est vraiment réduit, quoi. Ils sont au même niveau presque maintenant.
Alors la marque de fabrique de votre rubrique Transpi, Étienne Carbonnier sur TMC, c'est de mettre en avant des sports disons, très peu médiatisé. Ouais. Je pense aux fléchettes, au Quidditch, le sport cher à Harry Potter, ouais, dont il existe une compétition très sérieuse, hein, mais mmh, aussi le béhour. Le béhour, c'est une discipline de joute médiévale. Les gens qui pratiquent ce sport le font évidemment pour le goût de la reconstitution historique.
Ce week-end, il y avait 22 équipes d'hommes et de femmes qui avaient un seul objectif.
De pas mourir. Bien ça.
C'est super bon esprit.
Toujours dans le bon esprit, ouais. Et l'amusement et la violence.
Voilà, 180 combattants réunis autour de leur passion.
Qu'est-ce qui vous fait tous à faire ce sport?
Taper.
Toujours. Pour casser de la tronche, ouais. Ah.
Le béhour aura évidemment sa place ce soir dans votre best-of de l'année.
Exactement, ouais, ouais. Moi, en tout cas, j'avais un peu découvert ce sport l'an dernier, et on avait essayé plusieurs fois d'aller tourner, ça marchait pas bien, on avait pas trouvé les bons personnages, puisque c'est ça aussi pour raconter notamment les sports comme ça, un petit peu atypiques, c'est bien d'avoir un personnage auquel on s'attache. Et là, on allait une compétition, et c'était super, on a suivi les ils s'appellent les Hommes du Nord, c'est des champions de France et aussi du monde en 55, ils m'ont expliqué. Et ouais, c'est hyper impressionnant en fait. C'est des mecs qui sont équipés vraiment comme à l'époque, quoi. C'est des armures qui pèsent 40 kilos.
Ils ont des cottes de mailles et d'énormes casques.
Exactement. Et alors, ils sont tous énormes. Hein.
Ils font tous 2m20.
Ils font minimum 1m85, donc ça va être très compliqué à côté d'eux en plateau.
Parce qu'ils viennent ce soir.
Exactement, ouais, ouais. Non, parce que là aussi, c'est voilà, l'idée dans l'émission, c'était, on voulait, comme on n'a que 5 minutes habituellement, c'est d'aller plus loin, donc aussi de recevoir les personnes qui nous avaient touchés, qu'on avait trouvé hyper mignonnes, comme par exemple on aura deux des champions du monde de bridge des moins de 20 ans. Et pareil, le sujet est génial, les gamins, on a envie de les suivre et de plus les connaître.
Le bridge, en effet, fait partie des grandes séquences de cette année.
J'ai commencé le bridge à l'école. Il y avait différentes activités proposées entre midi et deux. Le bridge qui coûtait 5 euros et les échecs 180 euros. Alors ma mère, elle a trouvé que c'était une très bonne idée de faire du bridge. Et c'était effectivement une très bonne idée parce que j'ai accroché tout de suite, quoi.
C'était une compétition mixte.
Alors forcément, on a voulu savoir.
Les filles aussi jeunes que vous qui jouent au bridge comme ça dans les compétitions et tout, ça fricote un peu ou pas?
Bah, il y en a extrêmement peu.
C'est bien dommage.
L'équipe de France des moins de 20 ans est championne du monde de bridge. Hein.
Ouais, exactement.
C'est ça, Étienne Carbonnier, aussi, ils seront sur votre plateau.
On aura deux des champions du monde sur le plateau.
L'équilibre entre le rire et la moquerie est-il difficile à trouver?
Ouais, je pense que c'est assez dur, c'est-à-dire que on est toujours un peu sur une brèche, mais en même temps, on n'est jamais méchant. C'est-à-dire que on peut taquiner, on peut... Là, par exemple, c'est normal, on est là, on est avec des gamins qui font du bridge dans l'imaginaire collectif. Le bridge, c'est des vieux qui jouent à ça.
Et de fait, ils le disent eux-mêmes. Hein,
ouais, et bien sûr. Mais non, mais c'est là où finalement...
Il y a des filles, oui, surtout des grand-mères.
Si on se moquait, qu'on était méchant, ça se passerait pas bien. Et là, à chaque fois, ils en rigolent, ils sont avec nous, on leur dit, voilà, alors avec les filles et tout, parce que ils ont entre 14, 15, donc c'est vraiment la période des premiers amours, des trucs, donc c'est normal qu'on leur demande ça. Mais il n'y a pas de, ils se vexent pas et c'est jamais fait de manière méchante.
Mais alors, j'ai l'impression tout de même que la tonalité de la rubrique a évolué sur ce terrain-là depuis quelques mois. Vous répétez beaucoup, et Yann Barthès aussi d'ailleurs en plateau, on les adore, ils sont très sympas, salut à eux. Vous avez peur qu'on vous reproche d'être condescendant?
Ouais, parfois c'est le, enfin vraiment la philosophie de la truc, c'est le bon esprit et comme on le ferait avec un copain et comme on passe notre temps au plateau, Yann il passe notre temps, on se lance des piques, des trucs, mais c'est jamais méchant, c'est comme on le fait avec ses potes.
Est-ce que vous avez parfois regretté tout de même d'y être allé trop fort et de vous être payé la tête de ceux que vous filmez?
En tout cas, on va jamais avec l'idée de se dire on va se payer quelqu'un, jamais.
Mais parfois ça arrive.
Au contraire. Ouais, ça a dû arriver qu'on fasse pas assez attention. Et pourtant, vraiment, on fait vraiment hyper gaffe à ça parce que on sait, on a en plus l'expérience du petit journal où.
À l'époque Canal Plus.
Ouais, voilà, exactement. Où parfois il y avait des séquences qui étaient géniales, mais comme c'était un truc un peu nouveau, on se rendait peut-être pas compte aussi de des répercussions. Donc ça, maintenant, on fait vraiment hyper attention. Et il nous est arrivé parfois d'enlever des trucs parce qu'on se dit là, non, et c'est pas nécessaire et ça sert à rien. Et parfois même, on recontacte les gens. On avait fait une séquence qui était hyper drôle. C'était il y a deux ans, je crois, à la sortie d'un Grand Prix de F1 électrique.
La Formule E.
Voilà. Ouais, exactement. La Formule E. Et on était tombé sur un mec qui s'appelle David, qui d'ailleurs, maintenant, que j'ai toujours en contact, qui rentrait de soirée et qui était un peu éméché, mais qui était très, très drôle. Et en fait, on a parlé, je crois, en 5 minutes, 20 secondes de Formule E. Et après, on est resté avec lui pendant une heure. Et donc, on a fait 5 minutes sur lui. Et il était hyper drôle. Et c'est devenu, je crois que c'est une des séquences qui a été les plus vues. Et sur le coup, on s'est dit, le mec est hyper drôle, machin et tout, mais bon, quand même, il est éméché, il est 8h du matin et tout, on peut pas faire ça. Et donc, on l'a retrouvé, on lui a demandé, on lui a dit, voilà, si toi, ça te pose un problème, on le fait pas et c'est pas grave. Le but est pas de faire une séquence pour faire une séquence. Faut aussi que ça soit bien fait et que ça soit pas méchant.
Je pense quand même à cette séquence sur le championnat d'Europe des métiers qui regroupait des apprentis en plomberie, en carrelage, en restauration. Ça avait suscité beaucoup de réactions à l'époque. On avait beaucoup parlé de condescendance, de mépris, de cynisme.
C'est là où je vous parlais tout à l'heure du fait que parfois, eh ben, peut-être qu'on s'est planté. Parce qu'encore une fois, là, le but du truc était vraiment pas de se moquer. C'était juste drôle de voir que cette compétition existait. Enfin, juste en elle-même. Mais comme on trouve ça drôle qu'il y ait des mecs qui fassent du béour ou qu'il y ait...
Le championnat de cri de mouette était quand même le meilleur.
Enfin, pour nous, c'était vraiment... on l'avait fait exactement de la même manière. Alors, après, on n'avait peut-être pas fait suffisamment attention et c'est pour ça qu'on essaye à chaque fois. Enfin, moi,
Et ça vous a servi de leçon. Critiques.
Ouais, bien évidemment. Et puis, ça m'a touché puisque moi, vraiment, le but est jamais de blesser qui que ce soit.
Vous sentez-vous plus humoriste que journaliste, Étienne Carbonnier?
En fait, j'ai l'impression d'être vraiment entre les deux. C'est-à-dire que tous les angles des sujets, c'est toujours avec de l'humour et les questions qu'on pose sont toujours un peu faites pour susciter le rire et rigoler, qu'on rigole avec les personnes. Mais en même temps, c'est peut-être aussi la bonne façon de présenter ces trucs. Si on y allait et qu'on présentait de manière hyper stricte, qu'est-ce que c'est le bridge avec les règles, les machins, les trucs, je suis pas sûr qu'à 21h, 2 millions de personnes resteraient dessus.
Vous avez une autre casquette, Étienne Carbonnier, que celle de spécialiste du sport, c'est celle de spécialiste de la télé. Et la rubrique baptisée Canap, c'est un zapping, un montage qui pioche sur toutes les chaînes. On se demande toujours comment c'est fabriqué. Est-ce qu'il y a des gens qui sont payés pour regarder toute la télé, toute la journée?
Non, mais pareil, ça c'est vraiment pas. On est une toute petite équipe. À chaque fois, on pense que j'ai 15 auteurs, machin.
Ou en tout cas 15 personnes qui regardent la télé pour vous.
Eh ben non, on est deux par chronique. Enfin, moi je fais le transpi avec Louis, qui bosse avec moi maintenant depuis 2 ans. Et on est deux pour tout regarder. Et pour le Canap, c'est pareil, c'est Adrien Lenier et Christophe Faury qui sont deux et qui se regardent tous les trucs. Mais du coup, c'est vraiment pas justement un zapping. On regarde pas 150 heures de trucs pour
pas
prendre les trucs rigolo. Mmh. Le but est vraiment de zoomer sur un truc et après, voilà, de tordre le truc, de jouer avec au maximum pour en faire quelque chose. C'est pas simplement trouver les mecs qui sont tombés par terre. Enfin, ça, c'est dans ce cas-là, il faut aller
ça,
sur YouTube.
Ça, c'est le bêtisier. Voilà,
exactement.
L'Assemblée nationale vous fournit souvent des séquences précieuses. C'est votre faute, finalement, tout ce qui s'est passé cette année, Étienne Carbonnier. Mélenchon et les 5 euros, Ruffin et son maillot de foot, Jean Lassalle et son gilet jaune. Ils font ça pour être dans votre séquence Canap.
Peut-être. Ben, je me rappelle. Alors, pareil, à l'époque, ça s'appelait les Cancres au petit journal. Et à l'époque, c'était diffusé sur France 3. Et je pense, et d'ailleurs, je remercie les réalisateurs de France 3 à l'époque, qui étaient vraiment super bons, parce qu'il y avait beaucoup plus de plans, de coupes, de trucs qui nous montraient vraiment ce qui se passait. On voyait les députés qui arrivaient en retard, le mec qui partait avant, le gars qui était... Et il restait vraiment dessus. On avait les histoires quand il y avait un ministre, par exemple, qui répondait à quelqu'un. Il faisait des plans sur, justement, les contre-champs et tout. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. C'est uniquement la réalisation de l'Assemblée nationale. Donc, il y a beaucoup moins ça. Mais effectivement, de toute façon, les députés, je pense, ont conscience de...
Et les députés eux-mêmes, d'ailleurs, isolent les séquences et les mettent en ligne sur les réseaux sociaux. Mmh. Ça pose l'éternelle question de votre responsabilité dans le discrédit qui pèse sur le personnel politique. Hein. Vous encouragez les gens à trouver les politiques nuls, pas au niveau, incompétents. Est-ce que vous glissez sur une pente populiste, Étienne Carbonnier?
Ben dis donc. Non, enfin, alors franchement, en plus, dans... On les appelle les foufous de l'Assemblée. On est vraiment sur un truc...
Ça, c'est hyper respectueux, ça, par exemple, les foufous de l'Assemblée.
En tout cas, ça se veut pas du tout... on comprend assez rapidement que ça va pas être un décryptage hyper fin politique. C'est souvent assez en surface, on rigole.
Mais vous pensez sérieusement que c'est inoffensif?
Je pense que... Ouais, mais il y a aussi une bonne chose. Enfin, si les députés ils jouaient pas à Candy Crush sur leur iPad pendant la séance, on les montrerait pas. Enfin, alors peut-être qu'on a, nous, une responsabilité de les montrer, mais s'ils le faisaient pas, on n'aurait rien à montrer.
Bah justement, même quand il n'y a rien à montrer, on invente les feux de l'amour, par exemple, à l'Assemblée.
Ouais, mais ça, j'espère que les gens comprennent que c'est juste de la blague.
C'est de l'humour,
et qu'ils
ne
se disent pas que les ministres sont vraiment dans les feux de l'amour. Même si parfois, j'ai l'impression que c'est... faut bien expliquer les choses.
Un grand merci à vous, Étienne Carbonnier.
Merci beaucoup, Dorothée.
Bonne journée. Soirée Transpi sur TMC, donc c'est l'année des champions.
Exactement.
Et c'est ce soir à partir de 21h.
Exactement, sur TMC.
À suivre, grand bien vous fasse sur France Inter.